Quels parents sommes-nous? L'éducation positive en question? Une conférence France Inter déclinée en podcast en partenariat avec la MAE.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Ali Rebehi. Pour continuer cette série de podcasts autour de la parentalité, je vous propose un échange avec mes invités autour de la définition de l'éducation positive. Depuis 1989, les enfants bénéficient d'une convention internationale des droits de l'enfant. C'est dans ce contexte nouveau que l'éducation positive s'est épanouie au cours des années 2000. Et en 2006, c'est tout récent, le Conseil de l'Europe définit l'éducation positive comme un comportement qui vise à élever l'enfant et à le responsabiliser. Un comportement non violent qui lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. Rebecca Shankland, cette définition du Conseil de l'Europe satisfait la chercheure que vous êtes ?
Exactement, en fait, donc c'est la première apparition de ce terme de parentalité positive a été proposée par le Conseil de l'Europe. On peut considérer que c'est peut-être pas la terminologie qui a été la plus utile au final, puisque
Pourquoi ?
Ça a généré un certain nombre de fausses représentations, mais au départ c'était l'idée d'une éducation non violente, donc positive, au sens où elle va avoir un certain nombre de conséquences positives sur le développement. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de fausses représentations. Donc, c'est une terminologie que nous, personnellement, enfin, en tout cas, j'utilise moins, puisqu'elle va générer des représentations fausses auprès du public. Donc, on va plutôt essayer de travailler sur l'éducation. On appelle ça l'éducation fondée sur les recherches, où on peut apporter un certain nombre d'informations de ce qui a été observé dans les recherches, qui sont bien sûr ensuite adaptées à chaque situation. Vous disiez, on propose un modèle. Alors, ce n'est pas tant un modèle que tout le monde doit appliquer, c'est des principes qui indiquent que statistiquement, telle ou telle méthode va être plus efficace que telle autre.
Bruno ?
Alors, je pense que ce sont des pédagogies à finalité positive, mais elles le sont à peu près toutes. Et je voudrais un petit peu revenir sur la petite passe d'armes qu'il vient d'avoir entre Rebecca et Didier, parce que c'est ça, en fait, qui mobilise aussi les gens, parce qu'on se dit, mais si tout le monde est d'accord, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut bien comprendre que là, il y a un désaccord fondamental. Quelqu'un qui dit qu'il faut accueillir l'émotion de l'enfant et quelqu'un qui dit... Aussi, il faut accueillir l'émotion de l'adulte. La position de l'adulte qui est en colère, elle a aussi du sens dans l'éducation. Et ça, je vois un mouvement réalisé dans l'éducation positive actuellement, qui simplement dit, il faut accueillir les émotions des enfants, mais les enfants doivent apprendre à tenir compte des émotions des adultes. Et si on résume cette petite passe d'armes, je suis belge, donc j'ai l'habitude du consensus en permanence, mais on se dit, mais ils ont tous les deux raison dans leur manière de dire les choses, mais le point de rencontre, parce qu'on fait le focus sur l'enfant, c'est l'enfant qui devait ceci, c'est l'enfant qui devait cela. Mais je pense qu'il faut effectivement tenir compte qu'on a affaire à des situations éducatives qui impliquent un enfant, bien entendu, mais un, deux parents, voire un ensemble d'autres personnes, dont il faut aussi apprendre à tenir compte des émotions et faire en sorte que l'enfant perçoive les émotions. Moi, ce qui me plaît dans la petite scène qui a été évoquée par Didier, c'est qu'il était visiblement en colère et qu'il n'a pas comprimé cette colère. Et c'est cette colère dont l'enfant a pris conscience. Et c'est grâce à celle-là qu'il met maintenant son petit bracelet.
J'étais frustré. Je sais blesser ma colère. C'est ce qu'on enseigne aux parents. Comment ne pas péter les plombs, justement.
La frustration, c'est l'intelligence de la colère.
Vous savez que c'est un comportement de petit con.
Vous disiez.
Mais je l'accepte.
Mais que la frustration, c'est l'intelligence de la colère. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est frustré, on est en colère. Bon, quand on est un intellectuel, on dit qu'on est frustré. Mais quand on est comme moi un peu plus basique, on dit qu'on est en colère.
Non, parce que c'est la colère qui fait que les parents vont passer à la baffe, ils vont passer à l'insulte.
Ça, c'est la crise de colère.
Oui, mais la crise de colère, ça veut dire je n'accepte pas ce comportement-là. Ouais. Moi, je pars du principe qu'il aura ce comportement-là. Il y a de grandes chances, c'est un enfant, il est biologiquement gnagnin. Je veux manger tout de suite. Ok, eh ben, j'ai une stratégie pour que tu arrêtes et après, on va travailler ça.
Catherine Guiken.
Alors moi, je veux rebondir sur ce que vous avez dit. Je pense que c'est extrêmement important de comprendre les parents. Et que les parents, ce sont les premiers à être compris justement dans leurs émotions, dans ce qu'ils éprouvent et dans leur façon d'être vis-à-vis des enfants. Et justement, l'accompagnement des parents, c'est d'abord aider les parents et leur montrer que oui, l'éducation est extrêmement difficile et qu'on peut péter les plombs, on peut se tromper, on peut avoir des mots qu'on n'aurait pas dû dire ou des gestes qu'on n'aurait pas dû faire. Et ce n'est pas grave parce que ça arrive à tout le monde, à tous les éducateurs. Et quand on a eu un mot de trop, eh bien on dit à l'enfant, excuse-moi, J'étais fatiguée, j'aurais certainement pas dû te faire ça. Et pour l'enfant, une grande partie de l'éducation se fait en imitant les adultes. Et donc, quand l'enfant va voir que le parent admet qu'on est tous faillibles et qu'on peut faire des erreurs, lui-même, quand il va justement péter les plombs, l'enfant, avec sa petite sœur ou bien son copain dans la cour de récréation, il va comprendre que lui aussi peut s'excuser quand il aura eu un mot de trop ou un geste de trop.
Mais qu'est-ce qu'on dit, docteur Guéguen, à l'enfant de 3 ans, quand, en tant que parent, on a pété les plombs? Qu'est-ce qu'on lui dit concrètement?
On lui dit, écoute, si on a pété les plombs en lui donnant une baffe, hein, on lui dit, excuse-moi, j'aurais pas dû te donner une gifle. Bien sûr, j'étais fatiguée, je n'aurais pas dû le faire. J'espère que je ne le referai plus. Et ça arrive à tout le monde de pouvoir de faire des erreurs.
Tout à fait. Et l'enfant apprend aussi par imitation, hein, apprend au départ essentiellement par imitation. Donc, tout ce que les parents vont pouvoir montrer aussi en termes de caractère faillible, on n'est pas du tout parfait, on peut faire des erreurs, mais du coup, après, il y a des conséquences et donc on va s'excuser, apprendre à s'excuser. Donc, l'enfant peut après reproduire ce même type de comportement. Et je voulais juste rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, les parents sont effectivement sous pression, des pressions multiples, à la fois aussi liées aux résultats des recherches qui montrent le poids finalement de l'éducation sur le développement de l'enfant, les recherches aussi dans le champ de la santé avec bisphénol A et compagnie. Donc en fait, pour toutes les questions que les parents se posent, et les parents ont plus de 200 choix à faire par jour à propos de petites choses, de qu'est-ce qu'il faudrait manger, pas manger, etc. Donc c'est une charge mentale très importante, une pression très forte, et plus ils sont sous pression, plus ils vont avoir tendance à mettre en œuvre des comportements automatiques qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils voudraient faire. Donc, quand on parle de soutien à la parentalité, c'est pas pour prescrire un modèle à suivre, c'est pour permettre aux parents de pouvoir mettre en œuvre les comportements qu'ils souhaiteraient avec leurs enfants.
Petit sondage de l'Institut du Doigt Mouillé. Qui se sent sous pression? Tiens, ici, à la maison de la radio, levez la main ceux qui, les parents présents qui se sentent sous pression. Qui ose lever la main? Il y en a quelques-uns qui lèvent la main. Bah oui, 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 vous êtes nombreux. J'imagine derrière votre écran que vous l'êtes également, Bruno Humbeck.
Alors, c'est là moi que j'ai un petit souci hein, dans ce qui vient d'être dit. Il faut s'excuser, il faut comprendre les parents, presque leur pardonner. Moi, dans ce que Didier exprime, dans cette petite scène qui me plaît vraiment beaucoup, je vois pas en quoi il devrait s'excuser. Je vois pas en quoi il devrait être désolé. Il a eu de la colère. Et on a droit, en tant que parent, aux émotions. On n'a pas le droit, et là vous avez tout à fait raison, à déborder dans ses émotions. Comme l'enfant n'a pas le droit non plus de déborder dans ses émotions. Et vous le dites avec beaucoup de justesse, l'enfant apprend de ses parents. Donc si l'enfant voit effectivement ses parents accueillir ses émotions d'enfant, ben, il doit apprendre à accueillir les émotions de l'adulte. Mais c'est cette culture de l'excuse qui me pose parfois un peu question ou souci. Un parent qui a débordé doit s'excuser d'avoir débordé, mais il ne doit pas s'excuser d'avoir été en colère. Parce qu'il y a des enfants qui sont effectivement difficiles à supporter dans un certain nombre de comportements. Et on doit comprendre, effectivement, c'est un mot magnifique en éducation. Quand on dit à son enfant, on doit pouvoir le dire à son conjoint aussi, je t'aime, mais là, je te supporte pas. Et on doit pouvoir maintenir, c'est ça, maintenir un lien. L'autre peut être insupportable dans le lien, que ce soit un conjoint ou un enfant, et bah, la véritable affection, c'est la capacité de lui dire, et la véritable amour, c'est la capacité de l'entendre aussi.
Mais là, on est au cinquième étage du passage à l'acte de l'enfant en général. Oui. Quand un enfant nous met en excès et nous fait péter les plombs, c'est qu'on a raté toute l'autorité, ce que j'appelle en amont. Et c'est vrai que je reprenais avec mon petit garçon, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais bien vu qu'effectivement, depuis 2 jours, j'étais plutôt animateur de Club Med qu'autre chose, et j'étais chosifié gentiment dans les goûters et les trucs, parce que je m'étais dit, finalement, c'est pas mon petit-fils biologique, donc j'avais été drôlement dans l'empathie, etc. Mais comme c'était un cheval fougueux, il avait besoin aussi d'autres choses. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux parents. Quand vous pétez les plombs, bah oui, tout le monde, mais c'est que quelque part, vous avez mangé votre chapeau toute la journée, là, à essayer d'être tout le temps dans du positif, du faire avec, etc. Quand ça marche, oui, mais quand ça marche pas, c'est qu'on n'est pas devant un tempérament qui apprécie le Club Med, mais qui a plutôt besoin, non pas d'un camp de concentration, mais d'un tuteur, d'un mentor, d'un dominant. Je parlais avec Boris Cyrulnik récemment, éthologie, etc. Il est d'accord avec moi. Une gentille pouliche, quand on frotte les naseaux et qu'on est gentil avec, on la monte, il n'y a pas de problème. Un cheval fougueux, vous faites la même chose, vous oubliez de le brider, il vous vire. Alors je ne dis pas que ce sont des animaux, les enfants, mais il y a cette histoire biologique où ils ont besoin stopper le pulsionnel. Il y a des enfants qui n'y arrivent pas. Et c'est ça la priorité pour moi. Phase 2, on partagera empathie, beaucoup de choses. Mais phase 1, j'arrête la pulsion.
Alors oui, mais la question c'est le comment en fait, parce que là dans ce que vous décrivez, il n'y a pas du tout eu de violence, et en fait ce que montrent les recherches qui est inefficace, c'est le fait d'utiliser des moyens coercitifs.
Mais oui, mais vous avez... l'autorité en amont, c'est pas la violence, c'est tout pas l'autorité fait. En aval, c'est justement être conflictuel, c'est-à-dire tu ne fais pas ce que tu veux, tu participes au petit déjeuner, tu tournes la pelouse avec moi, c'est ça l'autorité, c'est pas gueuler. Exactement. Quand le môme vous dit pas bonjour.
Mais Didier vient d'exprimer d'ailleurs un concept un peu nouveau. Hein. C'est une situation de grand-parentalité, hein, donc ça existe aussi. Et c'est le phénomène qu'on appelle celui des chics ouf. Oui. C'est-à-dire on reçoit des enfants chics, on va les avoir, et puis au moment où on les redépose, c'est ouf, parce qu'on se transforme. Et c'est
une... Il y a des chics ouf dans la salle.
Certainement, il y en a partout. Ils se démultiplient, et il faut oser le dire, parce que les grands-parents, ben, ce ne sont pas des babysitters, et on a tendance à imaginer que la parentalité, ça nous oblige, non pas à nous préoccuper des enfants, ça c'est une réalité, mais à nous occuper de full-time. Et donc on devient animateur de Club Med, etc. Et à un moment donné, on se dit là, c'est plus possible, parce qu'il y a une partie du rôle éducatif qui m'échappe, et il faut le reprendre en main.
Alors la condamnation des châtiments corporels, c'est bien sûr l'un des principes essentiels de l'éducation positive. Le Code civil entérine le principe selon lequel l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Jusque dans les années 1980, on pouvait trouver des martinets en vente dans les supermarchés, à la caisse, le martinet utilisé pour corriger les enfants. Alors des méta-analyses ont clairement montré quels étaient les effets des châtiments corporels sur le développement des enfants, Rebecca Shankland.
Tout à fait. Donc, c'est basé notamment sur une méta-analyse qui a porté sur plus de 180 000 enfants, qui a montré des effets donc, sur notamment certaines zones du cerveau, notamment le cortex préfrontal. Et du coup, c'est une sorte de cercle vicieux, puisqu'on va chercher à corriger l'enfant à travers des châtiments corporels pour qu'il obéisse mieux et qu'il ait moins de problèmes de comportement. Et en réalité, cette zone, elle est impliquée dans la capacité à réguler les comportements. Donc plus on va utiliser ces châtiments, plus on risque de retarder la capacité à réguler au mieux ses comportements et ses émotions.
Oui, mais cette maltraitance-là, elle est heureusement de plus en plus rare. C'est pour ça qu'en éducation positive, c'est assimiler certains comportements de parents à des violences éducatives ordinaires en nous disant « il est en train de sécréter l'hormone cortisol, on va faire des destructions neuronales wow ». Waouh ! D'abord, on sait que c'est faux, parce que ce sont des enquêtes sur les petits rats et sur les enfants hyper maltraités tous les jours. Mais non, il n'y a pas de violence éducative ordinaire destructrice. Les gens font l'amalgame, est-ce que vous dites c'est une... Oui, les martinets, mais c'est dans les années 50, ça.
Ouais, non, je vous assure, dans les années 80, on retrouvait...
Ça devait être la fin, alors.
On retrouvait des martinets à la caisse des supermarchés. Oui, Rebecca Shankland.
Et dans les années 90, il y avait encore 80% des parents qui mettaient des fessées. Donc, c'est pas parce que ça arrive une fois ou l'autre, c'est pas ça le problème, mais effectivement, ce que montrent les recherches, c'est plusieurs fois par mois, lorsque c'est plusieurs fois par mois.
Non, mais ça c'est de la maltraitance. Mais beaucoup de parents, non, faisaient pas ça.
Docteur Guéguen, je rappelle que vous êtes pédiatre.
Oui, oui. Eh bien, il y a une étude de la Fondation pour l'enfance et de l'IFOP en automne dernier qui a montré que 3/4 des parents avouaient utiliser des violences éducatives ordinaires régulièrement. Donc, et la moitié de ses parents disaient qu'ils étaient complètement démunis et qu'ils voudraient être aidés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la violence, la plupart des parents ont subi eux-mêmes des violences dans leur éducation, et c'est très très compliqué pour eux d'envisager une autre éducation. L'OMS et l'UNICEF rappellent que dans le monde, il y a plus d'un milliard d'enfants qui subissent des violences quotidiennement, et en Europe, c'est 118 millions d'enfants qui subissent des maltraitances. Et l'OMS et l'UNICEF ont lancé un appel à tous les gouvernements nationaux en octobre 2021 pour que tous les gouvernements instituent un soutien universel des parents pour qu'ils sortent de la maltraitance. Donc ce n'est pas un petit problème. Et ils recommandent que ce soutien soit basé sur la parentalité positive, sur les dernières données scientifiques, sur la théorie de l'attachement et sur le développement des compétences émotionnelles et sociales. Et ça, j'aurais aimé que dans notre pays, on parle de cet appel à tous les gouvernements du monde. Donc il ne faut pas penser que la maltraitance est un petit problème. C'est encore un immense, immense problème. Et nous, pédiatres, je voudrais terminer. On voit encore énormément d'enfants qui sont maltraités dans nos hôpitaux. Et c'est un sujet ultra tabou en France.
Mais on est d'accord, hein, on est tout à fait d'accord. Le martinet, évidemment, plus personne ne veut en entendre parler, mais le problème, c'est que les parents perdus, lorsqu'on leur montre des modèles. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pas le martinet, il existe encore, il doit plus exister, là, c'est très clair, c'est la nostalgie du martinet. Si vous regardez La petite maison dans la prairie, c'est mignon tout plein, hein, c'est la famille moderne, pas post-moderne, mais moderne. 17 fois, Charles Ingalls s'en va chercher un martinet. Et il a un air un peu contrit.
Hein, il avait l'air gentil dans mon esprit.
Mais il est super gentil. Mais c'est la grosse différence entre lui et Homer Simpson, c'est que Charles Ingalls, il trouve des solutions à tout. Un épisode des Ingalls, c'est toujours le même fonctionnement. Un enfant pose problème, généralement Laura Ingalls. Charles coupe du bois, règle le problème, et puis on danse autour de la table et il fait du violon. Et on a réglé le problème. C'est l'époque où le soutien à la parentalité, il était quand même beaucoup plus facile à donner. On donnait des conseils aux gens. Et les conseils, on sait en éducation que ça sert à rien. Ceux qui en ont besoin, ils sont pas prêts à les entendre. Ce sont les parents maltraitants. Et ceux qui sont prêts à les entendre, ils n'en ont pas besoin. Et donc le principe même, c'est de se dire « attention ». Quand on donne des solutions inefficaces à des parents, du style, alors je vais prendre le titre d'un livre, « Éduquer sans punir ». Et puis le parent se dit « mince, j'ai pas le droit au martinet, ça, évidemment, je sais bien, je vois Charles Ingalls ce qu'il fait, mais moi j'ai pas le droit, parce que Charles Ingalls, c'est les cow-boys. Donc j'ai pas le droit, et puis mon gamin, eh ben, il me monte sur la tête. Et on me donne des petits trucs du style, bah, utiliser l'humour, utiliser des tas... Et puis ça fonctionne pas.
Non, les recettes, ça ne fonctionne pas.
Non, mais c'est, je n'ai vraiment, je suis un adepte de l'éducation positive sans problème. J'ai de grosses difficultés avec les titres réducteurs. Éduquer sans punir et sans sanctionner. Parents zen. Tous ces éléments qui font que le parent, eh ben, il est perdu.
Mais oui.
Et lorsqu'il se trouve stigmatisé parce que non pas, il a utilisé le martinet. Mais il a eu envie d'utiliser le martinet. Un bon parent, c'est un parent qui a régulièrement envie d'envoyer ses enfants par la fenêtre. Un mauvais parent, c'est un parent qui le fait. Ça, c'est un très mauvais. Mais les parents, normalement, trouvent leurs enfants parfois insupportables.
Rebecca.
Oui, c'était juste pour revenir sur le fait, tu as mentionné des parents maltraitants, mais en fait, tout parent peut le devenir lorsqu'il se sent totalement débordé par la situation. C'est ce qu'on retrouve dans les situations de burn-out parental. Les recherches qui ont été menées par des collègues en Belgique, hein, Moira Mikolajac, Isabelle Roskam, montrent que le burn-out parental multiplie par 10 les risques de maltraitance et de négligence. Donc, chez des parents qui n'avaient pas du tout ce type de comportement avant. Donc, la question du soutien à la parentalité n'est pas pour donner des conseils, non. Elle est pour soutenir les parents, c'est-à-dire les aider à traverser ces moments difficiles. Et plus l'enfant est jeune, plus c'est difficile. Lorsqu'on en a plusieurs jeunes, le rapprocher, c'est encore plus difficile. Lorsqu'on est parent solo et qu'on est loin, avec des familles éloignées, ben, c'est très compliqué. Donc, toutes ces situations font qu'aujourd'hui, les parents se retrouvent dans des situations où ils sont dépassés et du coup, peuvent avoir recours à ce type de comportement parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités.
Qu'un parent est dépassé, Rebecca, c'est toujours le même principe. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est dépassé ? Souvent, les parents me disent « je suis dépassé quand j'ai fait des tas de choses positives avec mon enfant, enfin, même pas d'éducation positive, des trucs sympathiques, et dans certains cas, il pète les plombs, l'enfant. Et à chaque fois, c'est toujours mon histoire de tolérance aux frustrations. Il veut manger tout de suite, on a dit non, ça marche plus, alors qu'on jouait au domino juste avant. C'est toujours, à chaque fois que l'enfant doit s'accommoder à une réalité déplaisante, on en parlera des devoirs des ados, de tous ces trucs, de réguler les... C'est là que ça va pas. Ça veut dire que ça ne suffit pas. L'ocytocine, l'hormone de l'amour, n'élève pas le seuil de tolérance aux frustrations des enfants. Oui. Malheureusement, sinon, moi, je serais le premier à faire l'éducation Mère Teresa.
Mais là, c'est une caricature de l'éducation positive, puisque précisément, on ne dit pas qu'il faut que l'amour et que l'attention à l'enfant. On dit bien qu'il y a une importance de ce cadre, de faire respecter les règles.
Oui, mais là, on ne donne pas de conseils pour élever le seuil de tolérance aux frustrations. On dit qu'il en faut, mais comment ?
On reviendra tout à l'heure sur cette histoire de frustration, mais à ce stade de notre conférence, hein, continuez à nous envoyer des questions si vous êtes derrière votre écran et préparez les vôtres. Un micro va circuler dans quelques instants. Rebecca Shankland, comment la recherche définit précisément l'éducation positive ? Quel est le consensus de la communauté scientifique en la matière ?
Alors, ce qu'on appelle éducation positive, comme je disais tout à l'heure, c'est lorsqu'il y a des conséquences positives aux actions éducatives qui sont proposées, donc à la fois des conséquences positives sur les dimensions du bien-être et sur les apprentissages de l'enfant. Et pour pouvoir mettre en place ces conditions, en fait, il y a eu un certain nombre d'études, hein, plus de 40 ans de recherche dans les différents champs de l'éducation, hein, que ce soit dans le champ de la protection de l'enfance, dans les familles ou dans l'éducation à l'école, qui montre qu'on peut développer des contextes favorables, notamment basés sur la réponse à ce qu'on appelle les besoins psychologiques fondamentaux. Donc il y a notamment le besoin d'autonomie, donc vraiment soutenir l'enfant dans l'exploration, parce que vous parlez de l'attachement, bien, donc ça c'est un aspect important, mais en complément il y a aussi tout ce soutien de l'autonomie qui va du coup être fondé notamment sur la possibilité de faire des choix. Mais c'est là où il y a de la confusion, c'est que faire des choix, c'est pas l'enfant fait ce qu'il veut, c'est on va permettre à l'enfant de se sentir acteur de son développement, de ses apprentissages, de ses activités du quotidien, en proposant des choix, mais qui restent dans le cadre des règles qu'on souhaite, dans le cadre des valeurs de la famille, des normes morales, etc. Donc on va lui dire par exemple, est-ce que tu préfères faire les devoirs tout seul ou que je t'aide au début. Donc c'est pas est-ce que tu veux faire tes devoirs ou non, c'est pas faire ce qu'on veut, mais c'est offrir des choix à différents moments.
Vous avez répondu à Élise, hein, qui se demandait si l'éducation positive voulait dire absence de cadre.
Non, donc exactement, c'est une des confusions qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, dans, à la fois dans la presse.
Il faut bien comprendre, et je crois que ce que Rebecca dit est tout à fait juste, parce que à l'origine de la pédagogie positive, c'est le paradigme des recherches qui a changé. C'est-à-dire que moi j'étais chercheur en éducation familiale, et on cherchait tout ce qui générait de la maltraitance, les facteurs de présage, etc. Et on nous a dit, mais vous voulez pas un peu aller chercher ce qui permet de préserver la bonne santé, de ce qui est favorable au développement. Et donc on a eu la recherche qui a bougé, et qui a bougé, je pense, dans le très bon sens. C'est pour ça que je suis vraiment un adepte de la pédagogie positive, mais je suis très méfiant vis-à-vis de ces dérives. Lorsqu'il y a eu derrière, bah, disons-le clairement, tout un merchandising, hein, qui a été mis en place en disant on va donner des conseils aux parents hyper, hyper faciles, basés non pas, et c'est pour ça que j'ai toujours peur quand j'entends la science dit que, parce que la science elle dit rien, il faut bien dire les choses. La science elle dit ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses, et que, par exemple, un acte sévère même avec son enfant dans un climat chaleureux n'aura jamais de conséquences négatives. Alors qu'un acte très doucereux, mais dans un climat malveillant, dans un climat qui n'est froid, eh bien, celui-là ne posera sans doute plus de problèmes. Je vais prendre l'exemple, on en parlera certainement tout à l'heure, des écrans. Toutes les études sur les écrans qui disent on est pour, on est contre. Et il y a eu récemment une recherche qui a balayé l'ensemble de ces recherches qui tendaient finalement à faire perdre la tête à tout le monde. Et ils en sont arrivés à la conclusion que l'écran n'était pas le facteur déterminant. C'est la chaleur familiale et l'utilisation ou pas d'écran à l'intérieur de familles chaleureuses qui s'avéraient être le contexte déterminant. Et on revient à d'anciennes recherches qui montraient effectivement eh bien, que le contexte de la pédagogie est plus important que la forme qu'on donne à la pédagogie.
Docteur Catherine Guéguen, pouvez-vous nous exposer ce que prône concrètement l'éducation positive?
Alors, concrètement, l'éducation positive demande que la relation avec l'enfant soit empathique, chaleureuse et soutenante. L'empathie, c'est le travail sur les émotions. Mais c'est d'abord le travail sur les émotions des parents, d'abord. Et ensuite, vis-à-vis des enfants. Mais c'est d'abord le parent qui doit prendre soin de lui. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, le soutien et l'encouragement, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'enfant fait même un petit effort, on va souligner son effort. Et ensuite, sans humiliation physique et psychologique. Et encore une fois, cette éducation, elle se doit se faire sans aucune violence, mais toujours le parent n'est jamais culpabilisé, ça c'est extrêmement important, et cette éducation non violente est extrêmement, extrêmement importante.
Vous avez des exemples concrets, docteur Guéguen? Sur le soutien, par exemple.
Sur le soutien.
Ou sur l'encouragement.
C'est-à-dire que, par exemple, Rebecca le donne très souvent cet exemple, je vais le prendre, Rebecca. On demande à un enfant de mettre son linge sale dans le bac à linge sale et il ne met qu'une chaussette. Eh bien, au lieu de lui dire, franchement, t'es insupportable, t'es même pas capable de mettre deux chaussettes, on lui dit, bravo, t'as déjà mis une chaussette. Eh bien, ça, ça fait progresser l'enfant. On sait que dès qu'on souligne l'effort que fait l'enfant, eh bien, l'enfant va progresser.
Ça vous fait rire, Bruno Beck.
Oui, ça me fait rire parce que j'utilise le même exemple dans une de mes conférences, mais pas avec une chaussette. Je dis, voilà, si une maman dit, vous lavez, l'enfant, son rôle, c'est de mettre son linge dans la manne à linge. Je ne laverai jamais, dit-elle à son enfant, que le linge qui est dans cette manne à linge. S'il n'y a qu'une chaussette, eh ben, je laverai une chaussette. Le reste, tu assumeras. Et l'enfant, très tôt, est capable de comprendre, eh bien, qu'il y a une règle dans la maison, c'est je mets mes affaires dans la manne à linge et seul. Parce qu'une maman, c'est pas quelqu'un qui est condamné à aller en dessous du lit chercher le reste des chaussettes. C'est quelqu'un qui va juste dire, mon rôle, c'est de nettoyer les linges qui se trouvent dans la manne à linge. Et l'enfant est capable très tôt dans son développement de comprendre ça. Et je pense que nettoyer la chaussette et tu te débrouilleras, tu mettras l'autre, elle est sale. Une chaussette propre, une chaussette sale. L'enfant, peut-être à un moment donné, se dira, il vaut mieux que je mette mes deux chaussettes dedans. Voilà. Il aura au moins appris quelque chose.
Donc là, je bois du petit lait, parce que c'est ça l'autorité en amont.
Ben, on est d'accord.
C'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences aux actes posés par l'enfant. C'est-à-dire que la relation n'est pas privilégiée en première étape, elle le sera après pour expliquer, etc. En première étape, on arrête un comportement et on donne des conséquences. Et ça évite d'avoir des conséquences émotionnelles disproportionnées, les punitions. Ça fait quatre fois que tu mets qu'une chaussette, toi, toute chaussette. En amont.
Moi, je voudrais juste redire que le parent ne doit jamais être laxiste et laisser tout faire à l'enfant. Le parent doit être un vrai parent, il doit transmettre des valeurs, il doit savoir dire non, il pose des repères. Et ça, c'est très très important. Il y a eu une confusion entre la parentalité positive et le laxisme. Il n'y a aucune confusion.
Oui, mais Catherine, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant continue à brûler les feux rouges et que les limites ont été posées? Je vois que tous les gens qui font de l'éducation positive, ils ne sont pas laxistes, ils me disent tous, on met des limites, pleu. Je sais, vous posez des interdits. Là où ça ne va pas, c'est quand il y a le passage à l'acte. On réexplique la règle, on donne pas de conséquences négatives, etc. On veut garder le lien. On peut pas garder le lien avec un tout petit de 11 ans qui vous dit pas bonjour le matin, alors qu'on a été positif avec lui la veille. C'est au niveau uniquement là qu'il manque quelque chose. C'est ça le maillon faible.
C'est pour ça qu'il faut soutenir et accompagner les parents.
Alors Didier Pleu, contrairement Didier Pleu à ce que laisserait penser le titre de votre livre, l'éducation bienveillante ça suffit, vous étiez partisan d'une éducation positive, mais telle qu'elle est née dans le monde anglo-saxon. Vous avez par exemple défendu le programme de parentalité positive, triple P, de l'Australien Matt Sanders. Expliquez-nous ce qu'est ce fameux programme triple P.
Mais c'est un programme d'éducation.
Ça veut dire quoi d'abord, triple P?
En anglais?
Et on va traduire en français.
c'est ce que vous avez dit, Alice, c'est le programme de parentalité positive.
Et en anglais?
Positive Parenting Program. Ouais. Bon. Je peux le
mieux. Mais vous étiez donc plutôt proche de ce mouvement-là
au
début.
Oui, parce que c'était quelque chose d'uniquement comportemental par rapport au poste d'altruisme qu'on connaissait. Enfin, des gens vous disaient, il y a un savoir-faire éducatif qu'on peut vous proposer sans que ce soit dogmatique. C'était toujours hypothèse, réponse, des kits. Bon, et moi, ça m'enthousiasmait parce qu'on ne parlait plus du sens d'un comportement, on parlait d'un comportement. Et justement, on parlait pas de l'amalgame de t'es un méchant, mais t'as eu un comportement qui est pas très sympa avec ta sœur, etc. Je prends un exemple. On travaillait avec Triple P sur un truc qui tracasse beaucoup les parents, c'est la motivation de l'enfant, le manque de concentration de l'enfant, par exemple. Manque de concentration, on travaillait sur est-ce que l'enfant a un projet professionnel ou un rêve professionnel, hein, pour se projeter, motivation. Est-ce que l'enfant, l'ado, s'est séquencé, hein, on coupe en petites, ils appelaient ça la technique salami, hein, plus on mange un salami en petits trucs, c'est digestion. On coupe un salami en deux, c'est dégueulasse. Des techniques comme ça, organisation du milieu, ben bien sûr, pas de téléphone avec la petite copine si t'as du mal à te concentrer sur Proust, etc. Des techniques qui l'aidaient. Et nous, on rajoutait aussi, qu'est-ce qui fait que ça bloque quand t'es justement devant Proust? Si c'était, je vais avoir du mal. Si c'était, je comprends pas. Si c'était, je vois pas le rapport. Là, on était dans les techniques classiques, mais souvent j'entendais, c'est parce que ça me gave. Et c'est là que j'ai rajouté des choses dans le programme. On a été un peu en désaccord. Moi, je voulais inclure l'apprentissage du déplaisant, de l'effort, quand on n'a pas envie, ce qu'on appelait, nous, les piagétiens, le conflit cognitif. Au moment où l'enfant et en difficulté. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ont besoin d'aide, mais il y en a qui disent « je veux pas ça, ça me prend le chou ». Et malheureusement, c'est le dernier tiers qui est le plus important, le plus souvent.
Une question de Lydie, c'est pour vous Didier Pleu. Pouvez-vous donner des exemples concrets d'aide pour élever ce seuil de tolérance à la frustration chez un enfant de 3-4 ans ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Ça peut être par exemple, mon enfant, à un moment donné, a pas mal joué. Et puis nous, on est fatigués en tant que parents. On dit, je vais faire autre chose et puis tu vas t'occuper. Si l'enfant continue à quémander, etc., c'est là qu'on lui apprend que non, je ne renforce pas ta demande. Un enfant a envie de grignoter parce qu'il a faim. S'il a été satisfait à satiété, on ne cède pas. C'est toutes ces choses qui lui disent, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tout simplement, parce que ça marche pas. Un enfant veut pas faire sa sieste. Je vois ça dans des crèches. Il veut pas faire la sieste. On le met à part. Il est avec un adulte. On renforce le truc. Il garde le lien, c'est sûr, mais le gamin ne dort pas. Donc c'est du bon sens, c'est avant tout du bon sens. C'est-à-dire si un enfant est gourmand, on lui dit, écoute, excuse-moi, mais t'as tendance à vraiment aimer le sucre. Je vais te faire un petit gâteau qui est moins sympa, mais je veux t'éduquer à la bonne nourriture. Frustrer, c'est pas faire mal, c'est apprendre la réalité.
En fait, la pédagogie positive paye très cher le terme positif. Parce qu'on a l'impression, effectivement, qu'on est toujours dans le oui, 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 alors qu'on doit être dans le pas maintenant ou pas autant. L'histoire du sucre, c'est pas autant. Le jeu, c'est pas maintenant. Je suis pas toujours disponible. Mais honnêtement, la pédagogie positive a été desservie, non pas par des gens comme vous, qui l'avaient maniée positivement, mais des petits bouquins à la mort moelle-neuve, disons-le clairement, dans lesquels on vous donnait des petits trucs et astuces, toujours positifs. Et c'est ça. C'est pas la pédagogie positive. Je préférais l'appeler pédagogie à finalité positive, dans lequel on met des limites en demeurant bienveillant. Et là, on est dans quelque chose dans lequel je crois qu'on va très très vite tomber sur un accord complet de tout le monde ici autour de la table.
Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est, comme tu le dis, la finalité qui va être à plus long terme, en fait. Voilà. Alors que là, on croit qu'il faut que tout de suite, dans l'instant, il soit toujours content. Mais c'est pas ça l'éducation, en fait. Donc on n'est pas dans cette immédiateté.
Ça a été dit, Rebecca, dans tous ces livres que j'ai lus, et que ce soit les vôtres ou autres, on dit bien que quand l'enfant demande quelque chose, et surtout s'il demande avec une certaine véhémence, c'est qu'il y a un besoin fondamental à combler. Non, il peut y avoir...
Alors, vous me direz dans quel livre j'ai dit ça.
J'ai mal lu.
Oui.
On m'a fait le coup sur Dolto, j'ai mal lu. Je suis un crétin fini.
Depuis quelques années, l'éducation positive est sévèrement critiqué par certains psys, à l'image de la docteure en psychopathologie Caroline Goldman, que vous avez peut-être entendu cet été sur France Inter. Depuis une dizaine d'années, elle constate dans son cabinet une explosion des troubles du comportement chez ses jeunes patients. Selon elle, le principal coupable est le dévoiement de l'éducation bienveillante, avec des parents qui ont lu des ouvrages de parentalité positive et qui culpabilisent à l'idée de gronder et de punir leurs enfants, de crainte de causer des dommages psychologiques irréversibles. Alors, à propos des auteurs de parentalité positive, Caroline Goldman parle d'idéologues, je la cite, qui ont fait croire au grand public qu'une parentalité idéale dénuée de toute agressivité était possible. Des idéologues, je cite toujours, qui ont bâti un cynique empire marchand consistant à répondre à la culpabilité parentale. Et une tribune paru dans Le Monde et signé par 280 chercheurs et professionnels ont contesté Caroline Goldman, dont le fameux time out, on va y revenir tout à l'heure, le time out, vous le pratiquez peut-être sans le savoir, en tout cas moi j'en ai été quand j'étais petit, c'est-à-dire d'isoler un enfant qui a outrepassé les règles dans sa chambre. Bruno Humbeck, sur Caroline Goldman et sur ses critiques, parfois constructives, sur l'éducation bienveillante.
Elle a servi de bélier, disons-le clairement, elle a été trop loin, parce que quand on critique la radicalité, on ne doit pas soi-même la manier, et donc on s'est retrouvé avec des critiques radicales d'un système prétendu radical. Là, c'est tout ce qui est excessif est insignifiant, et ça a été trop loin. Je pense que dire, par exemple, que la pédagogie positive met au monde des dictateurs ou des futurs... Si vous analysez la biographie des démocratures, de ceux qui manient la dictature dans l'illusion de la démocratie, ils n'ont pas connu une pédagogie positive. C'est une constante, une pédagogie sévère, injuste, et vécue comme un désert affectif. Et donc on a ces composantes-là qui sont pas, effectivement. Alors, là aussi, on a mis beaucoup de pression sur les parents, et je pense que quand on a un système radical qui va dans l'autre sens, dire à des parents, vous menacez quasiment la démocratie, parce que vous mettez en scène des enfants qui n'auront jamais de limites, qui ne seront pas capables de l'entendre, ben, les parents sont perdus. Parce que, ben, sans doute que ce mouvement de balancier, alors en France, ça prend toujours une proportion démesurée. En Belgique, on en rit un peu, hein, du débat sur le time-out, parce qu'on a l'impression qu'on est de nouveau en train de remettre en scène la gauche et la droite. Il faut couper la tête du roi, ben non, il faut lui laisser la tête. Et on est resté dans ce schéma-là, avec des personnes qui viendraient maintenant avec un discours prétendu de droite, hein, ça n'a aucun sens, par rapport à un discours progressiste. Et donc ça crée un clivage, et le clivage, vous savez, quand il y a de la tension en éducation, celui qui paye les pots cassés, c'est toujours l'enfant. Parce que quand il a des parents qui savent pas quoi faire, qui savent pas comment faire, qui ont des injonctions, et c'est là que je dis, arrêtons de dire la science dit que... Parce que quand la science dit une chose, et puis que vous entendez quelqu'un vous dire que la science dit exactement le contraire, et que vous êtes un parent au milieu, il faut vraiment que les parents entendent, la science dit toujours que ça dépend. Et elle ne dit rien de définitif, et en tout cas elle dit une chose, c'est qu'en parentalité, on ne doit donner aucune injonction, mais faire des recommandations. Les injonctions sont toujours contre-productives.
Et le principe de la science, c'est bien évidemment la réfutabilité. La science n'est pas une croyance qui est souvent irréfutable. Rebecca Chankland.
Oui, je trouve que c'est quand même risqué de se départir de la recherche, même si c'est important effectivement de montrer toutes les nuances que présentent les recherches. Je trouve que c'est important de justement s'appuyer sur les recherches et du coup les présenter au grand public pour que tout le monde puisse se saisir de ces informations et faire ses propres choix.
Là, je me permets d'intervenir, jamais les présenter de façon raccourcie. Quand c'est on présente des recherches sur les rats et qu'on donne l'impression qu'on va avoir les mêmes résultats avec les enfants, là évidemment que ça pose des vrais problèmes. Donc la recherche en pédagogie, elle est toujours nuancée. On ne peut pas dire la science dit que, on peut dire certaines recherches prétendent que.
Et le fil dans ta chambre n'est pas une violence éducative.
Mais du coup,
alors que ça a été dénoncé dans ce sens-là, non ? Je connais Caroline Goldman, elle n'est pas du tout autoritariste, et quand vous lisez son dernier bouquin, pourquoi ? C'est plutôt de l'éducation positive, drôlement bienveillante. Je ne vois jamais le mot déplaisant, autorité, verticalité adulte, etc. Donc elle est plutôt de votre côté, mais par contre, elle est témoin de... Plein d'enfants vont mal, plein de parents vont mal parce que on est à la cinquième marche pour intervenir en aval, trop tard.
En fait, la raison pour laquelle 280 chercheurs et professionnels se sont réunis pour cette tribune autour de la question du time-out, c'est parce que justement, elle avait présenté les choses de manière totalement excessive en proposant d'appliquer un time-out qui, plus la bêtise est grave, plus il doit être long.
Le time-out.
Donc le time-out, c'est... à l'origine, c'est un terme qui veut dire time-out from positive reinforcement, c'est-à-dire c'est un temps où on va retirer l'attention de l'enfant. Et parce qu'il a fait un comportement qui était contraire à ce qu'on avait demandé ou contraire à ce qui est souhaitable. Donc, c'est un temps qui doit être court. Donc, ça peut être en général, donc en moyenne, ils disent que 2 minutes, c'est efficace et que plus ça va durer, moins ce sera efficace, voire ça peut être contre-productif. Donc, on ne dit pas que le time-out en soi, c'est mauvais. On dit que ce qui est dommage, c'est que dans la manière dont Caroline Goldman l'a écrit dans son livre, eh bien, ce qui est proposé, c'est de commencer tôt, donc dès 1 an, alors que dans les recherches, on montre qu'avant 3 ans, ce n'est pas efficace parce que l'enfant ne peut pas comprendre, en fait, ce qui est recherché par ce retrait d'attention. Donc, ça doit aussi s'accompagner de renforcement positif, c'est-à-dire que le time-out seul n'est pas suffisamment efficace. Donc, on doit avoir aussi les autres dimensions qui sont plus efficaces, le renforcement positif.
Même quand on génère, par exemple, chez un enfant de 10-11 ans, un sentiment de culpabilité. Avec Caroline Goldman, on était d'accord là-dessus. Il y a des enfants qui ont besoin d'un sentiment de culpabilité pour déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal.
Je crois que Rebecca a raison, c'est effectivement, le time-out est très utile quand l'enfant l'utilise comme une opportunité pour réfléchir à ce qu'il a fait et la façon dont il va retrouver sa place. Et c'est vrai qu'un enfant de moins de 3 ans n'a pas ce potentiel. Et donc là, je pense effectivement, de nouveau, quand on a un débat clivant un peu nuancé, c'est dangereux parce que le time-out est bon s'il est bienveillant et respectueux des besoins de l'enfant.
Et là, à ce moment-là... Et 2 minutes.
Mais je n'irai même pas jusque-là. 2 minutes pour un enfant de 4 ans, ça signifie pas la même chose que pour un enfant de 10, 11 ans qui, lui, va pouvoir rester plus longtemps parce qu'il va pouvoir maturer.
Et on reviendra tout à l'heure sur la place des punitions et des sanctions dans l'éducation positive. Merci pour votre écoute. Dans le 3e épisode, nous poserons cette question: Quel type de parent êtes-vous ?